Tel qu'annoncé, c'est un grand plaisir pour nous ce soir d'avoir l'opportunité de s'entretenir avec le président et directeur général de Moderna qui s'apprête à livrer son vaccin, évidemment, selon l'approbation qu'on aura dans les différents pays, autant aux États-Unis, au Canada qu'ailleurs dans le monde. Donc, à coût de millions de doses, le Canada en a commandé 56 millions de doses. Et le PDG de Moderna, eh bien, c'est Stéphane Bancel. On a eu l'occasion de lui parler dans la première vague. Beaucoup de chemin parcouru depuis ce temps-là. Monsieur Bancel, bien le bonsoir.
Bonsoir.
Alors, encore beaucoup de stress pour vous, même si vous savez que vous avez un vaccin qui a un taux d'efficacité important autour de 95%. Est-ce que l'étape de l'approbation pour vous est inquiétante? Est-ce qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à ça?
Alors, le souci, je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserai, mais il y a encore effectivement beaucoup de travail devant nous. Et comme dans toute activité, tant que vous n'avez pas franchi la ligne finale, ben vous ne l'avez pas franchi, mais on est très proche. Comme vous l'avez dit, nous avons été très heureux il y a 15 jours de partager les résultats intermédiaires de l'étude et maintenant, cette semaine, lundi, de partager les résultats finaux où nous avons par la suite, tout de suite, déposé les dossiers d'enregistrement aux États-Unis, mais bien sûr aussi au Canada, en Europe, en Suisse et plein d'autres pays pour permettre aux agences réglementaires de revoir le produit rapidement pour, j'espère, pouvoir l'approuver bientôt. Et donc, ça, c'est la première activité qui nous prend beaucoup de temps en ce moment, l'approbation. Et la seconde, bien sûr, c'est de continuer de fabriquer autant de doses que nous pouvons, de façon à ce que lorsque l'approbation arrive, nous puissions amener tout de suite des doses, par exemple, au Canada, pour protéger le personnel médical, les personnes âgées, les personnes à haut risque, d'abord, en première vague, et ensuite continuer à faire de plus en plus de doses. Donc, on a un gros effort industriel, mais je dirais que c'est un bon problème à avoir.
Est-ce une erreur de perception que de croire que le vaccin pour lequel vous avez obtenu là, dans vos analyses préliminaires une efficacité de 94,5%, est-ce une erreur donc de penser que ce vaccin-là empêchera la propagation du virus pour les personnes vaccinées?
Alors, scientifiquement, c'est un petit peu tôt pour en avoir la certitude. Ça a été montré dans les animaux comme le singe qu'effectivement, ça protège la propagation du virus. Mais dans l'homme, il va nous falloir encore, je dirais, sans doute 1 à 3 mois pour la confirmation scientifique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le 94% dont vous parlez, c'est-à-dire que si vous avez le vaccin, vous avez 94% de chance, si vous êtes infecté naturellement, de ne pas avoir de symptômes de la COVID. Donc, de ne pas avoir de symptômes de maladie, aucun symptôme. Et dans les 6% de cas supplémentaires, vous allez être malade, mais avec une maladie très légère. C'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'on a eu en fait 30 cas dans l'étude de personnes qui ont eu des maladies sévères, incluant bien sûr hospitalisation. Et dans ces 30 cas, tout le monde était sous le placebo. C'est-à-dire qu'ils ont eu de l'eau comme produit. Il y a eu 0 cas de gens qui avaient eu notre vaccin qui ont eu de maladies sévères. Donc pour moi, si vous voyez, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous prenez le vaccin Moderna, 94% de chance, si vous êtes infecté, de rien avoir comme maladie, zéro. Et si vous avez dans ces 6% de chance d'avoir de la maladie, c'est une maladie très légère. Donc si on arrivait à effectivement arrêter les hospitalisations, les passages en soins intensifs et bien sûr dans les pires cas, la mort, ça serait extraordinairement différenciant pour la catastrophe humanitaire que nous vivons aujourd'hui en tant que santé publique. Et on pourrait en fait arrêter les hospitalisations, les morts et bien sûr tout l'impact économique qui crée aussi beaucoup de douleurs et de souffrance à travers les pays.
Quand on fabrique un vaccin, donc c'est toujours après que l'on sait si on empêche le virus de se propager après vaccination. Donc, il n'y aurait pas moyen. Puis j'imagine que c'est le même processus lorsqu'on met au point d'autres vaccins. Il y a que le temps qui puisse nous dire ça, si je comprends bien.
Exactement. Donc, c'est la même étude de phase 3, donc sur 30 000 personnes qui est en cours, qui continue, bien sûr, sur laquelle on a découvert donc le 94% d'efficacité. Et on a besoin de faire un petit peu plus de recul, si vous voulez. On continue à prendre régulièrement chez ces personnes dans l'étude des tests PCR, mais aussi des tests de sang sur les anticorps, aussi bien les anticorps de la protéine Spike qui, en fait, est codée dans le vaccin, mais aussi d'anticorps d'autres protéines qui sont dans le virus, mais qui ne sont pas dans le vaccin. C'est-à-dire que si vous avez des protéines dans votre sang lors d'une prise de sang, c'est que vous avez été infecté parce qu'elle n'existe pas dans le vaccin.
Le vaccin ne contient pas le virus?
Ah, jamais. C'est une très bonne question. Le vaccin ne contient pas le virus du tout. Ça, c'est les vieilles technologies de vaccins qui ont certains effets secondaires néfastes. Dans notre cas, nous injectons une molécule qui fait que votre organisme lui-même va fabriquer une protéine du vaccin, du virus. Pas tout le virus, une protéine du virus. Cette fabrication de protéines du virus dans votre corps, par votre propre organisme, va éduquer votre système immunitaire, vos cellules blanches, pour faire des anticorps. De façon à ce que si plus tard vous avez une infection naturelle, quand vous parlez à vos amis ou votre famille, et que vous avez une infection naturelle, eh bien votre système immunitaire est en fait préparé. Et donc il va s'attacher au virus, l'anticorps fait par votre système immunitaire, et il va permettre au virus de ne pas se répliquer, donc de ne pas grossir en quantité, ce qui crée la maladie.
Le rêve de toute la communauté scientifique et pour vous, j'imagine, chez Moderna, et c'est de vous rendre compte au fur et à mesure que les mois vont progresser que votre vaccin, le vaccin qui pourrait empêcher la propagation en plus de réduire le risque de contracter le virus, ce serait le vaccin ultime contre la COVID. Juste pour conclure sur cet épisode-là de la conversation.
Oh, exactement. Et on espère y arriver. C'est encore, je dis, trop tôt pour le savoir. On a des bons indicateurs dans les singes, mais on le saura bientôt. Mais le premier objectif pour nous, c'était quoi? C'était d'arrêter la maladie.
D'accord, d'accord. Je regardais, peut-être l'avez-vous vu, M. Bancel, donc PDG de Moderna, un reportage cet après-midi sur CNN avec un volontaire, donc qui s'est porté volontaire pour tester votre vaccin Moderna. Il est en attente de ce rendez-vous pour une deuxième dose. Son nom est Yassir Batalvi. Les gens peuvent aller voir ça sur CNN. Il rapportait comment il a vécu donc l'administration de la première dose, avoué avoir ressenti comme une espèce de coup là, dans le bras, souffert de fièvre, de frissons, douleurs musculaires, donc quelques effets secondaires, environ une demi-heure après. Il avouait que ça n'avait pas duré très longtemps. Et ma question par rapport à ce qu'il a ressenti, premièrement, pouvez-vous me confirmer que ce que M. Batalvi a révélé, que ça ressemble à beaucoup de ce que les volontaires vous ont révélé? Et avez-vous des inquiétudes sur la possibilité que des gens qui éprouvent des effets secondaires importants à la première dose ne se rendent pas au rendez-vous de la deuxième dose?
C'est une très bonne question. Donc, je n'ai pas vu cette interview que vous décrivez, mais effectivement, les symptômes décrits sont exactement le type de symptômes qui arrivent peu fréquemment, mais qui arrivent dans les gens dans l'étude. Ces symptômes ont été décrits dans un papier scientifique qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, le journal le plus prestigieux dans notre métier. Et il décrivait exactement que vous avez des gens qui ont un petit peu de température légère qui part d'elle-même, ou un petit peu de frisson, comme un peu quand vous avez un vaccin contre la grippe. Mm-hmm. Certains des douleurs dans le bras, mais tout part entre 24 et 48 heures au plus long. Donc le cas que vous décrivez de quelques heures, ce sont des cas que nous avons vus. Et ce sont des cas qui sont d'ailleurs atténués si certaines personnes prennent juste une aspirine ou un Tylenol, ça part tout de suite. Et mes immunologistes vous diraient qu'en fait, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il y a le système immunitaire travaille, répond. Comme quand vous avez de la fièvre, quand vous avez une infection naturelle.
Oui, d'accord. Et c'est ce qu'on rapportait également dans le reportage. On posait la question à savoir, est-ce que c'est un bon signe qu'il y ait des effets secondaires? C'est ce que vous nous dites également. Par rapport au risque que les gens ne se rendent pas à la deuxième dose, là, parce que c'est un vaccin en deux doses, un peu sur le modèle de Pfizer, quelle est la vocation de la deuxième dose du vaccin en comparaison à la première? Et quelles seraient les conséquences si les gens ne vont pas chercher la deuxième dose?
Alors, c'est une très bonne question. La seconde dose a en fait deux objectifs. Le premier, c'est qu'elle permet à votre corps de fabriquer un petit peu plus d'anticorps. Donc, vous avez un vaccin qui devient en fait plus efficace. Et la seconde chose que la seconde dose fait, c'est comme c'est un virus que votre système immunitaire n'a jamais vu, la seconde dose va donner plus de durée à l'efficacité du vaccin. Donc, ce qu'on nous avoue dans les études, c'est que dès la première dose, nous pensons qu'il y a déjà une très belle protection, mais la seconde dose, nous pensons, va être très importante pour avoir une protection optimale et pour avoir surtout une longue durée de la protection.
Donc, vous ne voyez pas de conséquences au fait que les gens ne reçoivent pas la deuxième dose? Il n'y a pas de conséquences fâcheuses dans la recherche d'une, je dirais pas d'une immunité collective, mais des meilleurs résultats dans nos sociétés?
Alors, attention, la seconde dose, nous la recommandons. La seconde dose, c'est ce que nous avons fait dans l'étude. Donc, je n'ai pas de données d'efficacité aujourd'hui contre seulement une dose. Je vous décrivais juste au niveau scientifique.
D'accord.
Il n'y a pas de conséquences négatives de ne pas faire de seconde dose, mais votre vaccin risque d'être moins efficace. Donc, si par exemple vous êtes à risque, je ne recommande surtout pas de ne pas faire la seconde dose. Et votre vaccin, la protection risque de durer moins longtemps dans la durée. qui aussi n'est pas brillant pour vous.
D'accord. À quel moment envisagez-vous, chez Moderna, M. Bancel, de pouvoir distribuer le vaccin au Canada, le Canada qui en a commandé 56 millions de doses?
Oui, donc, nous, bien sûr, comme tout médicament, devons d'abord attendre l'autorisation réglementaire du gouvernement canadien, comme de la FDA pour les États-Unis. Nous sommes en très bonne relation avec eux. Les équipes collaborent extrêmement bien. Vous pouvez être très fiers de vos équipes gouvernementales qui sont très proactives, sont très rapides, mais sont aussi très focalisées sur les détails et s'assurer de la sécurité du produit. Il ne faut jamais oublier que comme les vaccins sont donnés à des gens en bonne santé, à l'inverse des médicaments donnés à des gens malades, la sécurité est la priorité numéro un des sociétés pharmaceutiques comme la nôtre et aussi des agences réglementaires. Donc, dès que le produit sera approuvé, nous serons capables de commencer à envoyer des doses au Canada. J'ai d'ailleurs reçu une lettre très récemment, pas plus tard que hier ou ce matin, j'ai oublié maintenant, du ministère de la Santé canadien, pour nous assurer que tout était prêt pour la vaccination au Canada. Et nos équipes sont en discussion très étroite pour bien tout coordonner, de façon à ce que dès que nous avons l'autorisation, nous pouvons envoyer des produits. Et nous allons continuer pratiquement toutes les semaines ou toutes les deux semaines à envoyer, dès que des nouveaux vaccins vont être fabriqués et être approuvés par les équipes de qualité contrôle selon les spécifications enregistrées donc au gouvernement canadien, nous enverrons tout de suite un nouvel approvisionnement pour continuer à pouvoir protéger de plus en plus de gens.
Donc, vous n'entrevoyez pas de problème de distribution malgré le grand nombre d'infections actuellement aux États-Unis, par exemple. Est-ce que le désir de vacciner le plus de gens possible, le plus rapidement possible aux États-Unis, à titre d'exemple, pourrait vous empêcher de livrer les doses promises à des pays comme le Canada dans les délais prévus?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, deux choses. Premièrement, je pense que dans la plupart des pays, si ce n'est même tous les pays, ça va prendre du temps. Et ça va être un petit peu frustrant pour les gens que tout le monde qui veut être vacciné ne pourra pas être vacciné le premier jour. Il n'y aura pas assez de doses parce que nous n'avons pas, si vous voulez, eu le temps, comme vous l'avez typiquement dans le développement d'un vaccin traditionnel, de fabriquer beaucoup de produits avant le lancement. Nous avons fait le plus possible, mais nous n'avons pas, si vous voulez, 14 milliards de doses prêtes à être utilisées, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, il va falloir prioriser. Et là, c'est là que je dis, le gouvernement canadien a fait un très gros travail de bien s'aligner sur les populations les plus à risque, sur lesquelles il faut commencer à vacciner. Je dirais une personne de 75 ans qui a un diabète, comme vous pouvez imaginer, c'est plus important de la vacciner d'abord une jeune personne de 25 ans qui n'a aucune maladie. Ensuite, notre seconde question qui est par rapport aux États-Unis, ce que nous avons fait pour nous assurer de pouvoir livrer les différents pays à travers le monde, nous avons créé en fait plusieurs chaînes de production. Donc, aux États-Unis, nous avons une chaîne de production dédiée aux États-Unis et nous avons une chaîne de production aussi qui est, en fait, pour l'Europe et le Canada. Et donc, les produits canadiens viendront de cette usine-là, ce qui permettra qu'il n'y a pas de risque, si vous voulez, où nous avons une autorité américaine qui nous interdirait d'exporter au Canada. Nous avons fabriqué les produits pour le Canada depuis la Suisse. Comme vous le savez, la Suisse est un petit pays à 8 millions d'habitants. Nous allons fabriquer à peu près 500 millions de doses l'année prochaine en Suisse. Donc, il y a peu de risques, premièrement, que la Suisse garde tous les vaccins pour les résidents suisses parce que, bien sûr, les chiffres ne le justifieraient pas. Puis, en plus, comme vous savez, la Suisse est un pays très ouvert à l'international, très collaboratif et respectueux des règles internationales. Et donc, je suis confiant que nous serons capables de livrer le Canada quels que soient les besoins américains.
Donc, vous ne craignez pas de scénarios comme ceux qui se sont produits là, quand les gens couraient après les masques partout à travers le monde et arrivaient avec des valises d'argent liquide pour avoir priorité sur les autres qui attendaient sagement?
Exactement. Et c'est pour ça que nous avons fait la chaîne de production comme ça. C'est parce qu'au début d'année, alors que nous commencions à construire l'outil industriel et que nous commencions les essais cliniques, comme vous, j'observais à travers les médias, ce qui se passait sur les masques, sur les ventilateurs. Et je suis devenu très inquiet très rapidement d'un protectionniste qui pourrait, en fait, avoir un gros impact négatif sur la santé publique mondiale. Et donc, avec mes équipes et mon conseil d'administration, nous avons travaillé très dur et investi beaucoup d'argent, hein, plus d'un milliard de dollars d'investissement, pour, en fait, pouvoir créer cette chaîne de production double qui permettent donc effectivement de pouvoir approvisionner depuis la Suisse des pays à travers le monde. Et donc, si vous voulez, cette solidarité mondiale, eh bien, là où elle va avoir lieu, c'est que je pourrais bien sûr produire plus de doses que pour le Canada au début. Mais ça voudrait dire que je n'envoie pas de doses en Suisse ou en Angleterre ou en Italie, ce qui ne serait bien sûr éthiquement pas possible. Donc, ce que nous essayons de faire avec les différents pays, c'est d'envoyer à peu près la même quantité de produits en proportion de la population aux différents pays en même temps. C'est-à-dire qu'on donne des pays à la Suisse et au Canada et à l'Italie et à l'Angleterre et plein d'autres pays en même temps à petite quantité, de façon à ce que tout le monde puisse vacciner les gens à risque dans son pays. Et chaque semaine, donc avec plus d'approvisionnement, on peut étendre de plus en plus le nombre de doses et le nombre de gens protégés.
Le taux d'adhésion nécessaire pour avoir une campagne de vaccination efficace dans les pays, selon vous, M. Bancel, quel est-il le taux souhaité, le taux d'adhésion souhaité?
Oui, alors c'est une bonne question. Avec un vaccin qui a une efficacité au-delà de 94%, ce qui est notre cas, et il faut aussi noter que le vaccin de Pfizer est aussi aux mêmes ordres de grandeur, il est à 95%, ce qui est bien sûr des très hauts niveaux d'efficacité démontrés dans des gros essais cliniques. Vous pouvez atteindre une immunité collective, je dirais, dans les 60-70% de personnes vaccinées dans le pays. Et encore une fois, ne pas oublier, c'est que, comme on l'a dit, la priorité numéro un, c'est d'éviter la maladie. Donc si, par exemple, les personnes à risque, on a une vaccination de 80 ou 90%, parce que ces personnes-là, soit âgées, soit le corps médical, soit des gens qui ont des comorbidités, réalisent bien, vu tous les morts que nous avons eus, les hospitalisations, qu'il est dans leur intérêt personnel d'être vacciné, mais que, je veux dire, un jeune de 25 ans, pour une raison X ou Y, décide de ne pas être vacciné, vous allez sans doute pas avoir aussi vite une immunité collective, mais vous allez protéger les personnes à risque. Donc pour moi, c'est ça que je reviens toujours dessus. C'est que l'objectif numéro un que nous devons avoir collectivement, c'est d'arrêter la maladie de la COVID.
Bien sûr, c'est la volonté de tous, je l'espère du moins. Comment accueillez-vous, comme patron de Moderna, la volonté de trois ex-présidents là, en l'absence de leadership du président actuel des États-Unis jusqu'au 20 janvier? Donc, comment accueillez-vous là la volonté des présidents Obama, W. Bush et Bill Clinton d'être prêts à se faire vacciner publiquement pour encourager les gens à ne pas être effrayés, puis pour un peu peut-être atténuer là, les craintes de ceux qui disent se prêter à une expérience à grande échelle?
Mais je trouve que c'est bien sûr un acte de leadership exemplaire. J'espère que des stars de la télé de Hollywood vont faire la même chose. J'espère que des grands sportifs vont faire la même chose. Moi, je peux vous assurer, je n'ai pas été vacciné encore parce que ce n'est pas éthique pour moi d'être vacciné avant l'approbation d'un produit. Les agences réglementaires ne veulent pas que les employés des sociétés fassent partie des essais cliniques parce qu'ils auraient peur que nous ne reportions pas les effets secondaires comme nous sommes employés par la même société. Ce sont, je pense, des très bonnes lois pour assurer l'intégrité scientifique et éthique des études cliniques. Mais je peux vous garantir que dès que le vaccin est approuvé et que je peux y avoir accès, je vais être vacciné et potentiellement vacciné publiquement aussi pour que les gens savent que j'ai confiance dans ma propre santé dans ce vaccin. Mais pareil, mon épouse, et j'ai une fille de 18 ans qui donc qualifierait potentiellement, parce que le vaccin n'a pas encore testé, ça va commencer sans doute la semaine prochaine chez les adolescents. Donc ma fille qui a 16 ans ne pourra pas être vaccinée encore, mais ma fille de 10 ans pourra l'être, c'est pareil, elle souhaite être vaccinée, moi je souhaite qu'elle soit vaccinée. Et je pense que ce sont des signes importants de figure publique, si vous voulez, pour rassurer les gens qui sont moins familiers avec ce qui s'est passé dans le processus de développement. Je comprends que certaines personnes peuvent être inquiète, je dirais, que le vaccin ait été développé si rapidement et se dire, tiens, est-ce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire ou est-ce qu'ils n'ont pas fait des choses qu'ils auraient dû faire? Alors, je peux probablement garantir que nous avons fait une phase 1 entière, une phase 2 entière et une phase 3 entière et de très grands nombres. Hein. Généralement, c'est les vaccins, des fois, vous avez des vaccins approuvés avec, je dirais, 10 000 personnes dans la phase 3. Là, c'était 30 000 personnes. Et donc, je pense que c'est très important que les figures publiques n'hésitent pas à publiquement se faire vacciner pour que toute la communauté canadienne, la communauté américaine, la communauté internationale réalise que les gens qui ont été proches de ce processus-là, je pense pas que ça serait très bien que les patrons des agences réglementaires se fassent vacciner avec leur famille, que les grands médecins, comme par exemple le docteur Fauci, qui est une grande figure, bien sûr, publique, se fassent vacciner publiquement. Parce que c'est tous ces gens-là qui sont proches du processus du développement des vaccins, qui ont regardé les données, qui comprennent ces données de par leur profession et leur éducation, mettent leur propre santé sur la ligne, je pense que c'est la meilleure manière d'aider les gens qui se posent encore des questions.
En terminant, Stéphane Bancel de Moderna, est-il le juste de dire que le succès obtenu par Pfizer dans ses analyses préliminaires par rapport à l'efficacité de leur vaccin vous rassure et que le contraire est aussi vrai parce que Pfizer et Moderna, vous utilisez tous les deux des technologies semblables?
Alors, c'est effectivement très bien, je dirais, pour la communauté mondiale que les deux vaccins de l'ARN messager de Pfizer et de Moderna aient tous les deux des très bons résultats. Je rappelle qu'il y a très peu de vaccins à des efficacités à 95%. Beaucoup de vaccins, comme vous savez, la grippe, c'est entre 30 et 60% chaque année. Donc, c'est des très belles performances. Les technologies ne sont pas exactement les mêmes. Donc, il aurait été possible scientifiquement qu'un vaccin fonctionne et pas l'autre, ou que l'un fonctionne mieux que l'autre, que ce n'est pas exactement les copies l'un de l'autre, c'est des technologies soulevées de la même nature. C'est comme deux voitures, si vous voulez, à électrique. C'est deux voitures électriques, mais elles peuvent avoir des performances différentes.
Oui.
C'est parce que l'une marche bien que l'autre marche pas bien, et réciproquement. Mais là, nous avons le meilleur scénario, je dirais, pour la planète et la santé publique, les deux vaccins ARN messager, et c'est une grande nouvelle mondiale, parce que l'ARN messager, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, c'est la seule technologie sur laquelle on travaille à Moderna. On a 20 produits en essai clinique, et c'est notre 10e vaccin en essai clinique, le vaccin contre la COVID. Mais c'est un très grand moment, je dirais, pour la science et pour les patients, pour les 10, 20 prochaines années. C'est que si vous réfléchissez depuis 100 ans, les petites molécules chimiques, c'est en fait l'industrie pharmaceutique qui a aidé des millions de personnes. Depuis 50 ans, les protéines créées par Genentech et Amgen et toutes ces sociétés-là, c'est l'industrie de la biotechnologie qui a sauvé des millions de vies. Et nous pensions depuis 10 ans, depuis que nous avons créé Moderna, que l'ARN messager pourrait être, à leur côté, une troisième classe de médicaments qui pourrait aider des millions de personnes dans la durée. Et nous savons aujourd'hui, depuis maintenant quelques semaines, avec les données de Pfizer et maintenant les données de Moderna, qui sont des données finales pour les deux vaccins, que cette technologie marche et est très efficace avec un bon profil de sécurité. Et donc, pour moi, en plus de la nouvelle COVID, qui donne beaucoup d'espoir, bien sûr, pendant cette pandémie très compliquée, avec beaucoup de douleurs, c'est qu'il y a un grand espoir pour moi scientifique et médical pour les 10 à 20 prochaines années. Nous allons avoir un nouvel arsenal pour conquérir des maladies comme le cancer, maladies cardiaques, auto-immunitaires, maladies génétiques rares et bien d'autres.
C'est prometteur et permettez-moi pour m'aider à bien comprendre, puis je ne sais pas si c'est facile à expliquer en terminant, en complément d'information, M. Bancel, quand vous parlez d'ARN messager, de quoi s'agit-il exactement?
Bien sûr. Donc l'ARN messager, c'est une molécule que vous avez dans chacune de vos cellules. C'est en fait la molécule qui sert de message, qui amène l'information génétique entre votre ADN, qui est un peu, si vous voulez, le disque dur de votre vie. L'ADN contient l'instruction de vos 22 000 protéines qui vous composent, comme l'insuline, l'hormone de croissance. Mais quand votre cellule a besoin de faire une nouvelle protéine pour son bon fonctionnement ou le bon fonctionnement de votre corps, elle ne fait pas la protéine directement à partir de l'ADN, elle fait une copie uniquement de l'instruction, comme une photocopie, si vous voulez.
D'accord.
Par exemple, de l'insuline. Et cette instruction est copiée. Comme vous savez, l'informatique, c'est écrit avec des 0 et des 1. Eh bien, la vie, c'est écrit avec 4 lettres. Toute l'instruction de toute la vie, que ce soit une plante, un poisson ou un être humain, c'est écrit avec les mêmes 4 lettres. Et donc, ça fait une photocopie avec les 4 lettres, comme alphabet, entre l'ADN, qui est le disque dur qui a en fait l'instruction pour toute votre vie, et fait cette copie dans cette molécule qui s'appelle l'ARN messager. Et ensuite, cette copie va dans votre cellule et est lue par une petite machine qui s'appelle le ribosome. La manière dont j'expliquais cette machine à mes enfants quand ils étaient petits, quand nous avons créé la société, c'est un peu comme une imprimante 3D. Ça imprime une protéine à partir de l'instruction qui est contenue dans la molécule d'ARN messager. Et voilà. Donc nous, ce qu'on fait comme médicament, on fait un ARN messager synthétique dans notre usine qui code pour l'instruction de la protéine spike du COVID. Quand on vous injecte le vaccin Moderna, cette molécule d'instruction d'ARN messager rentre dans vos cellules et instruit vos petits ribosomes, vos petites imprimantes 3D, à fabriquer la protéine spike du SARS-CoV-2, ce virus. Et votre corps fait ça, et ensuite, cette protéine est vue par votre système immunitaire, il fait des anticorps, et voilà, le tour est fait. Quand vous êtes infecté plus tard par le vrai virus, votre corps a déjà dans son arsenal une copie de l'anticorps pour s'attacher au virus et l'empêcher de se multiplier.
Fascinant, fascinant. Merci beaucoup de votre patience, Monsieur Bancel, et de toutes ces explications. Là, j'apprécie vraiment que vous ayez été accepté de vous prêter à l'exercice de l'entrevue aujourd'hui, là, à quelques semaines peut-être de l'administration des premiers vaccins au Canada. Merci beaucoup. Bonne chance pour l'approbation.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, Monsieur Bancel, et à votre famille. Au revoir.
Merci. Au revoir.